Bienvenue en Tête à tête avec la science, le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transport des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'amplifier la voix des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante au doctorat, et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Rebienvenue à Tête à tête avec la science. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Drouin-Chartier, nutritionniste, professeur adjoint à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval et chercheur au Centre Nutrition, Santé et Société. Au cours de l'épisode, on discute des travaux qu'il a réalisés dans le domaine de l'épidémiologie nutritionnelle portant sur la relation entre la consommation de différents aliments comme les œufs, les produits laitiers, les produits ultra-transformés et le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Puis, ce sont des aliments qui ont tous fait les manchettes à un moment ou un autre et dont les effets sur la santé peuvent sembler controversés. Mais au cours de la discussion, Dr. Drouin-Chartier vient faire de la lumière là-dessus en expliquant aussi pourquoi on peut avoir l'impression qu'il y a de la confusion à ce propos. Bref, ce fut une autre discussion super intéressante et enrichissante. Sans plus attendre, je vous laisse l'apprécier. Bonne écoute! Parfait, donc on est parti. Bon matin, Jean-Philippe Drouin-Chartier, comment vas-tu?
Bonjour Myriam, ça va très bien, merci. Toi-même?
Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir passer au balado. J'approche presque une trentaine d'épisodes, puis j'en ai eu drôlement très peu sur la nutrition, bien que je sois nutritionniste de formation. Donc, ça me fait vraiment plaisir de recevoir un chercheur qui travaille dans le domaine de la nutrition et qui est nutritionniste également. Donc, en débutant, mais j'aimerais que tu me parles de ton parcours académique et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux thématiques de recherche actuelles sur lesquelles tu travailles.
Comment résumer 10 ans de vie en quelques minutes? C'est toujours un défi. Bon, ben moi, actuellement, je suis professeur à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Je suis aussi chercheur au Centre Nutrition, Santé et Société de l'INAF, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Donc, c'est des entités de recherche basées à Québec. Je suis professeur depuis 2020. Et avant, donc moi, ma formation, j'ai fait un bac en nutrition à l'Université Laval que j'ai terminé en décembre 2012. Après ça, j'ai réalisé une maîtrise en nutrition, un PhD en médecine expérimentale. Je suis allé passer un an et demi à Boston pour faire un stage postdoctoral à la Harvard School of Public Health. Et après ça, je suis revenu en 2020. Donc, très brièvement, c'est ça mon parcours. Je fais de la recherche depuis à peu près le milieu de mon bac. J'ai été impliqué en recherche depuis le début de mon bac, depuis la moitié de mon bac, je pense. Je faisais vraiment de la recherche à ce moment-là. J'étais assistant auxiliaire de recherche ici à l'INAF, dans un groupe de recherche où il y avait des études nutritionnelles contrôlées, donc où l'alimentation des participants était totalement contrôlée. Il y a toutes les installations ici à l'INAF pour faire ce genre d'études-là. Il y a une très grande cuisine. Tous les aliments peuvent être pesés là, au point un gramme près. Puis c'est ça que je faisais, moi, comme emploi étudiant pendant la dernière année et demie environ de mon bac. Donc, la fin de semaine, je venais au centre de recherche pour faire des sandwichs où tout le pain, la laitue et... je sais pas trop si c'était là, mettons, le jambon était pesé au point un gramme près, ouais. C'est très précis. C'est ça qui m'a initié à la recherche vraiment, puis à découvrir ce milieu-là, ce qui m'a amené à poursuivre à la maîtrise, au doctorat, dans des thématiques qui touchaient l'alimentation, beaucoup les produits laitiers, mais aussi le métabolisme des lipides, surtout pendant mon doctorat. Et donc, j'ai fait de la recherche sur ces thématiques-là, développé beaucoup d'intérêt, beaucoup pour la recherche. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans des thématiques un peu différentes pendant ma formation, ce qui m'a donné beaucoup d'outils. C'est quelque chose que je dis à mes étudiants d'acquérir des outils différents qui permettent de faire différentes choses. Et donc, après ça, ça m'a permis d'aller à Boston et de revenir. Puis actuellement, là, je travaille, les thématiques touchent beaucoup la relation entre l'alimentation et la prise de médicaments. Donc, chez les personnes qui ont des maladies cardio-métaboliques, qu'est-ce qui se passe dans l'alimentation quand on débute une pharmacothérapie? On a des données là qu'on a générées puis qu'on va c'est publié dans les prochains mois, mais qui montrent que, par exemple, chez des personnes avec un syndrome métabolique, donc vraiment un niveau, une condition cardio-métabolique équivalente, ceux qui prennent des médicaments tendance à moins bien manger, puis il y a des sous-groupes de la population chez qui cette différence-là est plus présente. Et donc, ça soulève des questions sur ben, des individus, d'abord, comment ils voient leur médication, aussi la prise en charge par les professionnels de la santé, puis tout le système de santé un petit peu au travers de ça. Donc, moi, ça me... Générer des nouvelles questions comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis ça fait partie de mon quotidien, donc... voilà, brièvement, les 10 dernières années de ma vie.
Ah, mais c'est intéressant, puis surtout venant d'un programme professionnel comme le bac en nutrition, où est-ce qu'on est beaucoup, je ne sais pas si c'était comme ça dans le temps quand tu as fait le bac, là, mais le focus est beaucoup sur la nutrition clinique, là, donc je trouve ça toujours intéressant de voir justement comment des nutritionnistes ont dévié vers la recherche. Donc, pour toi, ça a été de peser des sandwichs et du jambon à l'INAF
ouais.
qui a allumé cette curiosité-là. Puis, j'ai entendu j'ai jamais vu ces cuisines-là à l'INAF, là, mais on me l'avait beaucoup vanté de professeurs au bac, justement, que vous avez des superbes installations pour faire ce type d'études-là. Donc, c'est vraiment bien intéressant. Puis, je regardais justement tes différentes publications, puis il y en a beaucoup justement en ce qui a trait aux produits laitiers. Tu fais aussi beaucoup d'études d'épidémiologie nutritionnelle de ce que j'ai pu constater.
Ouais. Ça découle beaucoup de mon postdoc sur l'épidémiologie
ouais.
nutritionnelle, là, où que je suis allé me former. Leader dans le monde en épidémiologie nutritionnelle, de par les grandes cohortes qui ont mis en place il y a maintenant plus de 30 ans. Et donc, j'ai travaillé dans ces cohortes-là. Je continue encore de collaborer avec eux. Produits laitiers, œufs, ont été des thématiques que j'ai explorées pendant dans les dernières années. C'est des aliments qui ont toujours une controverse autour un peu, là. Fait
que, pour ça que je suis intéressée d'en parler.
Ben c'est ça, dans le fond, produits laitiers, c'est des aliments qui ont, quand on regarde leur valeur nutritive, des aspects intéressants, beaucoup de minéraux, beaucoup de protéines, mais il y a aussi des gras saturés. Des gras saturés qui sont un type de gras qui, comparativement aux gras monoinsaturés, polyinsaturés, par exemple, des gras d'origine végétale, c'est moins favorable pour la santé, les gras saturés. Donc, ça soulève bien des questions. Est-ce que les nutriments, les protéines qu'on connaît, qui sont favorables pour la santé, ont un effet plus important que les gras saturés, du lait et compagnie? Donc, comment tout ça module les effets sur la santé? D'autant plus qu'il y a tellement de produits laitiers différents pour le contenu en gras. Tu sais, les fromages, ben, ça varie de je sais pas trop, de 18 à 5, c'est ça. C'est ça. Pour le lait, on est dans une autre braquette, mais bref, il y a différents aliments à différentes teneurs. Il y en a qui sont fermentés, il y en a qui ne sont pas fermentés, il y en a qui sont liquides, il y en a qui sont solides, il y en a qui sont semi-liquides, le yogourt. Donc, tout ça peut avoir des effets sur la santé différents. Ça amène des habitudes de consommation différentes. Donc, c'est à prendre en considération. Fait que, pour ça que... T'sais, on essaie en recherche, on essaie de répondre à des questions qui sont ben des aspects qui soulèvent des questions, si je peux dire. Les légumes, les légumineuses, on sait que c'est bon pour la santé. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Bon, il y a des aliments, des produits laitiers, mais c'est le même profil essentiellement pour les œufs. Il y a des protéines complètes, il y a des vitamines, il y a beaucoup de cholestérol. Donc, c'est un peu le même. La même vision qu'on peut avoir des œufs, des produits laitiers, là, c'est des aliments que moi je considère qui sont mieux que d'autres, mais peut-être moins bons que d'autres aliments. Là, ici, c'est à peu près dans le milieu d'un continuum santé, on peut dire.
Puis le Ben, il y a différentes controverses, je crois, qui ont toujours un peu existé par rapport aux produits laitiers, mais j'ai l'impression dans l'ère publique que les questionnements ont beaucoup émergé en 2019 quand le dernier guide alimentaire canadien a été publié, où là, bon, les produits laitiers n'avaient plus leur groupe à eux seuls. Dans les recommandations, souvent, on va recommander des produits laitiers qui sont faibles en gras. Puis, de ce que je lisais dans vos publications, ça semble être quelque chose qui est un peu remis en question de par, justement, la complexité, la matrice alimentaire, le type de gras qu'on va retrouver dans ces aliments-là. Donc, veux-tu me parler un peu des travaux que tu as faits sur le sujet, puis aussi de... Dans les grandes études populationnelles, habituellement, bien, c'est souvent des questions de fréquence alimentaire qui vont être utilisées. Donc, est-ce que la distinction entre les différents types de produits laitiers, de fromage, de gras, blablabla, va être documentée? Donc, grosso modo, comment ça se passe, ce type d'études-là?
Ouais, excellente question. Par où commencer? Bon, d'abord, par exemple, prenons le guide alimentaire canadien. Là, les produits laitiers sont maintenant considérés comme une source de protéines dans le groupe des aliments protéinés. Moi, je considère ça tout à fait adéquat parce que c'est la principale raison pourquoi on peut consommer des produits laitiers, la source de protéines. L'aspect du gras des produits laitiers et puis l'alignement avec les recommandations de consommer des produits laitiers faibles en gras, ça part d'une bonne intention. L'intention étant de diminuer la consommation de gras saturés des individus, des populations et augmenter la consommation de gras mono et polyinsaturés. Donc, on diminue les mauvais gras puis on augmente les bons gras. C'est ça. Mm-hmm. Par contre, faire cette substitution-là de gras dans le concret, ça pourrait être, par exemple, au lieu de cuisiner avec du beurre, ben, on va prendre de l'huile végétale. Mm-hmm. Ça, on remplace vraiment des gras saturés par des gras mono, des bons gras.
Oui.
Par contre, avec un verre de lait écrémé, au lieu de prendre un verre de lait 3%, ben, on ne remplace pas le gras par de l'huile dans le lait. T'sais, on fait juste enlever le gras.
Oui.
Ça fait que dans l'alimentation, consommer des aliments, des produits laitiers faibles en gras n'amène pas nécessairement plus de gras mono et polyinsaturés. Donc ça, c'est un peu la critique qui est faite de ces recommandations-là sur les produits laitiers. Parce que pour vraiment, via les produits laitiers, consommer moins de gras saturés puis consommer plus de bons gras, ça serait tout simplement de consommer moins de produits laitiers.
Donc, ce qui est bénéfique, c'est pas nécessairement tant de réduire les gras saturés provenant des produits laitiers, mais ce qui est bénéfique, c'est la substitution vers les gras mono et polyinsaturés. Donc, si on fait juste, je prends, un verre de lait crémé versus un verre de lait à 3,25%, j'ajoute pas des gras mono ou polyinsaturés, je viens juste réduire le gras littéralement.
Exact. À moins que tu prennes un shooter d'huile avec ton verre de lait écrémé, je pense pas que c'est ça que la personne qui fait ça, là.
C'est encore drôle, mais je pense à la diète cétogène avec le petit shooter d'huile de noix de coco et tout, là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais non, effectivement, on vient réduire.
C'est ça. La recommandation vise une bonne intention, mais c'est la rendre concrète qui est vraiment un défi, là. C'est un premier aspect qui amène beaucoup de confusion là sur je pense la place du gras laitier, des produits laitiers dans l'alimentation. Après ça, comment on fait pour étudier ça sur la santé? Il y a différentes façons. En épidémiologie, l'épidémiologie, c'est l'étude des populations, là, donc il faut des grandes cohortes, il faut plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on va suivre. Plusieurs années. Pourquoi? Parce que l'alimentation va avoir un effet, on peut dire, progressif sur la santé. Donc, ça prend du temps. C'est pas si on prend aujourd'hui, on se fait une omelette, on met 12 œufs puis on la mange tout au complet. Demain, on fait pas un infarctus, là. T'sais, c'est pas immédiat comme ça. C'est mm-hmm. d'autres, c'est des maladies chroniques qui vont se développer puis qui prennent du temps à développer. Donc, le défi, c'est d'évaluer l'alimentation des populations et de, à travers le temps, puis de mettre en relation leur alimentation avec le développement des maladies. Et donc, ça prend deux choses fondamentales à base, beaucoup de personnes et beaucoup de temps.
Oui.
Donc, moi, comme j'ai mentionné, je collabore puis je suis allé travailler à l'École de santé publique de Harvard dans trois cohortes qui ont été mises en place dans les années 70, 80, 90. Donc, qui totalisent plus de 200 000 hommes et femmes aux États-Unis, qui complètent des questionnaires sur leur santé à chaque 2 ans depuis, pour la première cohorte, là, depuis 1976. La deuxième, c'est depuis 1984 et l'autre 89. Puis à chaque 4 ans, dans l'enveloppe qu'ils reçoivent avec les questionnaires, il y a un questionnaire sur leur alimentation. Donc, 130 questions. Un verre de lait, combien de fois par jour, mois ou année vous en consommez habituellement? Donc, quand même, là, c'est un questionnaire assez simple. Qu'il y a des forces, qu'il y a des faiblesses. La force, c'est que c'est simple, facile à comprendre. Faiblesse, c'est que, bon, ça peut varier dans l'année, la consommation d'aliments. Donc, ces questionnaires-là reposent beaucoup sur la mémoire. C'est la quantité de lait qu'on prend en moyenne par jour, semaine ou année, c'est ça. Ça fait beaucoup appel à la mémoire. Donc, il peut y avoir de l'erreur dans ces questionnaires-là. C'est la méthode la plus utilisée, puis qui a été utilisée, on pourrait dire, en premier dans ces cohortes-là. Maintenant, il y a des méthodes un peu plus avancées, sophistiquées, mais juste des nouvelles méthodes utilisées. Là, c'est pas une nouvelle, mais des rappels de 24 heures, c'est beaucoup plus simple. Donc, on questionne la personne qu'est-ce qu'elle a mangé hier, la veille du rappel. Quand on fait ça 2 ou 3 fois dans une période d'à peu près 1 mois, on est capable d'estimer là, d'évaluer de façon assez précise, ou plutôt assez juste, l'alimentation là, de la personne. Encore là, il faut le répéter dans le temps si on va avoir une bonne évaluation. Bref, tout ça pour dire que si on veut évaluer l'effet des produits laitiers sur la santé, ça prend des données de questionnaire ou des données sur la consommation de produits laitiers des personnes, des populations, sur une longue période de temps, pour être sûr de mesurer là, s'il y a des changements dans la consommation à travers le temps. Et donc, ben moi, j'ai par exemple, dans les cohortes d'Harvard, il y avait des questions, une dizaine de questions habituellement sur les produits laitiers. Le lait, le fromage, différents types de fromage, le yogourt. Au travers du temps, ils ont rajouté des nouvelles questions, par exemple, sur le yogourt sans sucre, avec aspartame, tu sais, des nouvelles sortes de yogourt, mais il y a 2 ou 3 questions actuellement sur le yogourt, si je me souviens bien, même si l'étalage de yogourt actuellement dans les épiceries,
c'est assez impressionnant.
C'est ça. Fait qu'après ça, ben, on fait des moyennes de consommation, puis on met ça en relation avec le développement du diabète, maladie cardiovasculaire et compagnie. Et donc, ça a des forces. On est capable d'étudier ces relations-là, mais d'un autre côté, il y a tellement de produits laitiers différents que c'est difficile des fois d'avoir vraiment de faire des analyses vraiment sur des produits laitiers spécifiques, le lait 0 versus le 1, le 2, puis le 3.25, ça peut être difficile parce qu'ils sont pas tous consommés à des niveaux égaux aussi. Juste le lait entier, sa consommation a tendance à diminuer depuis 30 ans dans la population. Donc, à un moment donné, quand la consommation d'un aliment est très faible, c'est difficile de l'étudier parce que c'est tout simplement trop faible. Donc, ça fait partie du. Ça amène du bruit dans les données, ça peut amener beaucoup de confusion, ce qui fait que les données, des fois, entre les études, vont aller un peu dans tous les sens. Pour ça, il faut faire du sens de ça, il faut essayer d'expliquer tout ça. Donc, c'est ça, un peu la science de l'épidémiologie nutritionnelle. C'est comme ça qu'on procède et.
Puis ensuite, quand on veut mettre justement ces aliments-là en relation avec différents problèmes de santé, on va, disons, regarder, bon, bien, sur une période de 20 ans, les gens qui ont plus ou moins consommé de lait, est-ce que c'est ceux qui ont développé des maladies cardiovasculaires ou syndrome métabolique, etc.? Il y a évidemment beaucoup de variables qui peuvent être confondantes, qui peuvent venir justement faire du bruit. Donc, ça, j'imagine, au niveau statistique, ça demande beaucoup d'ajustements avec les autres données qui sont disponibles pour être capable de clairement venir établir s'il y a une relation entre une exposition, donc la consommation d'un produit, puis l'apparition d'une maladie.
Exactement. Ça prend, ça prend des approches statistiques qui vont être approprié pour ce type d'étude-là. Puis après ça, bien, il va y avoir de la modélisation qui va être faite pour prendre en considération les différents facteurs de confusion, le sexe de la personne, son âge, son niveau socio-économique, qui est un important déterminant de la santé d'une personne, son alimentation aussi. Puis après ça, bien là, on peut aller... Il y en a un paquet de facteurs qu'on prend en considération, tabagisme, alcool et compagnie. Puis après ça, ben c'est ça, quand on compare deux études, s'il y en a une qui est ajustée pour le poids initial de la personne, l'autre n'est pas ajustée pour le poids initial de la personne, ben, je suis désolé.
Donc, il y a certaines études qui corrigent pour certains facteurs. Si quelqu'un a corrigé pour le poids initial dans une étude, mais pas l'autre, on est un peu là, je pense.
Ben, c'est ça. Fait que là, après ça, ben là, on a à interpréter les données d'une étude dont les ajustements statistiques n'étaient pas tout à fait pareils. Donc, est-ce que la différence dans les résultats est causée par exemple, les produits laitiers qui étaient différents dans la population ou simplement par la modélisation statistique qui était différente? Donc, tout ça, ça amène du coup de la confusion. Puis ça peut amener de la confusion dans la population quand après ça, les résultats sont publicisés ou sont communiqués dans les médias, dans les blogs et compagnie.
Oui, oui. Puis ça, c'est une question que j'avais pour un peu plus pour la fin, mais puisqu'on y touche, toi, comme chercheur, justement, qui a une expertise là-dedans, qui est capable de déceler ces subtilités-là, comment les médias ou les journalistes pourraient peut-être mieux faire le travail de rapporter des résultats au niveau des sciences de la nutrition provenant d'études épidémiologiques comme ça, où là, justement, on peut avoir des différences entre deux études, une qui semble aller dans une direction, l'autre complètement dans l'autre. Là, c'est, bon, ça entretient cette cacophonie nutritionnelle, alors qu'au final, bon, c'est des différences plus subtiles au niveau des statistiques. Comment on pourrait mieux faire ce travail-là pour essayer de réduire la confusion dans la société?
C'est une excellente question. Je pense pas que j'ai la réponse à ça, mais tu sais, il y a un élément que moi j'observe, c'est surtout c'est sûr que je regarde plus les nouvelles scientifiques en nutrition, là, mais il y a vraiment une étude de cohorte. D'abord, des cohortes de grande envergure dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 30, 50, je ne sais pas trop. Je dirais que la communauté d'épidémiologie nutritionnelle connaît les différentes cohortes. Puis, on sait que une analyse sur le lait et le diabète, ben, on sait à peu près dans quelle cohorte ça a été fait, dans quelle cohorte ça n'a pas été fait. Puis on attend un peu que dans celle que ça n'a pas été fait, ça soit fait, parce que c'est d'intérêt, puis c'est des ressources qui sont, ces cohortes-là, ça demeure des ressources limitées et puis à exploiter au maximum. Donc, quand il y a des... C'est vraiment... Je ne sais pas comment les journalistes pourraient s'y prendre, mais rapporter une étude de cohorte, une grande étude de cohorte, c'est basé sur 30 000 personnes, sur 30 ans, 100 000 personnes, ça requiert un vocabulaire, une interprétation qui va être complètement différente qu'une étude contrôlée, randomisée, comme on peut faire ici, qu'on contrôle toute l'alimentation, mais on est capable de faire ça juste quelques semaines parce que les gens, ils veulent pas manger ce qu'on leur donne. Oui, les gens veulent pas juste manger ce qu'on leur donne pendant des années et des années. C'est impossible de faire ça. Puis aussi, ça a des coûts très importants. Donc, l'interprétation est vraiment différente. Puis, c'est vraiment un défi. Je pense pas que toutes les études devraient se retrouver dans les médias. Certaines sont d'intérêt. Certaines quand ça va à l'encontre de ce qu'on pense, ou ben pas de ce qu'on pense, mais de la majorité des autres études, je pense que là, il y a un travail à faire, peut-être plus approfondi sur les raisons, puis essayer d'expliquer bien ça, parce que moi, je suis pas d'accord que les études vont dans toutes les directions en ce qui a trait aux produits laitiers puis aux œufs. Moi, je pense que les études vont en fait toutes dans la même direction, puis que il y a beaucoup de confusion, mais c'est des études qui peuvent créer de la confusion, sont parfois tout simplement de plus faible qualité ou de plus faible importance. Donc,
Oui, je
c'est
pense
ça.
que ça prend une certaine littératie scientifique autant de la part de la population, mais que des journalistes qui vont le couvrir. Il existe des journalistes scientifiques, trop peu malheureusement, je crois, mais qu'une étude qui a été faite sur 100 000 personnes de par la force du nombre des chiffres va paraître vraiment plus impressionnante, solide scientifiquement qu'un essai contrôlé randomisé qui a été fait peut-être juste sur une centaine de personnes, alors que les deux viennent répondre à des questions différentes. Puis on peut avoir 100 000 personnes, mais avoir fait des statistiques qui sont complètement boboches, puis ça a passé les mailles de la révision par les pairs, puis ça va se retrouver quand même à l'extérieur. Donc c'est. Oui, ça ajoute à cette complexité-là. Puis je pense qu'il est difficile aussi, c'est que l'alimentation, ça nous touche tous. Donc, on se sent tous concernés, on est tous curieux. Si on voit une étude sur 100 000 personnes qui a dit que le lait s'était associé négativement à des conséquences sur la santé, bien, ça parle beaucoup à l'esprit. Ça vient chercher les gens. Donc, je pense qu'il y a un travail au niveau de nos propres biais à faire aussi là-dessus.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un grand défi pour les journalistes, parce que même nous, entre nous, les chercheurs là-dedans, on s'entend pas toujours sur l'interprétation des études. C'est pour ça qu'on fait la révision par les pairs. C'est un processus où on se fait challenger sur notre interprétation de nos résultats. Donc, ça fait partie du quotidien. C'est un défi. C'est un défi, là, c'est l'interprétation, puis faire du sens, puis le sens qu'on donne qui soit partagé par les collègues, par la communauté, c'est ça le but, mais c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile.
Oui, tout à fait. Puis pour revenir aux produits laitiers, je m'intéresse aussi particulièrement, bon, comme toi, j'allais encore te vouvoyer, je sais que tu m'as dit de te tutoyer en début d'entrevue, mais je m'intéresse beaucoup au métabolisme des lipides, les différents profils des acides gras et tout ça. Puis au niveau, justement, des produits laitiers plus riches en gras, on avait tendance justement à plutôt déconseiller. Ça ne... Tu pourras le commenter, mais ça ne semble pas aussi négativement associé à des enjeux de santé cardio-métabolique que, bon, peut-être les gras saturés provenant de la viande. Donc, veux-tu commenter un peu cet aspect-là?
Oui, tout à fait. Ben, quand on regarde dans des cohortes avec un point de vue épidémiologique, la consommation de produits laitiers, mettons pour le risque de maladies cardiovasculaires, la consommation des différents produits laitiers, là, puis en épidémiologie, souvent, il va y avoir différentes catégories d'analyses qui vont être faites. La consommation totale de produits laitiers, donc tous les produits laitiers additionnés ensemble, on évalue la relation avec le risque de maladie cardiovasculaire. Après ça, on peut les séparer, faible en gras, riche en gras. Après ça, on peut faire les aliments, lait total, lait faible en gras, lait entier et compagnie, bref, tout ça. Nous, par exemple, on a publié il y a 2 ans une méta-analyse sur la consommation de produits laitiers et le risque de maladie cardiovasculaire. Et on a observé, en fait, une évidence d'association défavorable. Donc, la consommation de produits laitiers, peu importe le type, le contenu en gras et compagnie, on ne observe aucune évidence d'une augmentation de risque. Ce qu'on observait, c'était soit aucune évidence d'association, donc les personnes qui consomment plus de produits laitiers comparativement à ceux qui en consomment le moins, ben, ils n'ont pas un risque plus élevé ou plus faible de maladie cardiovasculaire. Dans certains cas, on a observé par contre un risque de maladie cardiovasculaire plus faible. C'était pas toujours les produits laitiers plus faibles en gras qui étaient associés là, à un risque plus faible de maladie cardiovasculaire. Ça fait toujours. Puis ça, bon, c'est des données que là, après ça soulève des questions sur le rôle des gras saturés, laitiers, sur la santé, comme on disait en début d'entrevue. Après ça, ben là, il y a plein d'études cliniques qui ont été réalisées sur le sujet. Ce qu'on observe, par exemple, c'est que, notamment dans le fromage, un fromage solide, un aliment de, on va dire, avec une matrice solide, et il y a quelques études là, qui montrent que ben, la matrice fromagère pourrait protéger contre une augmentation importante du cholestérol, comparativement, par exemple, à prendre juste du gras du lait, juste du gras laitier, essentiellement du beurre. Donc, on fait des études fromage solide comparativement à du beurre. La même quantité de gras. Donc, les personnes vont consommer la même quantité de gras au final, mais il y en a une qui va être enveloppée d'une matrice solide de protéines et compagnie et le fromage. Ben, les augmentations de cholestérol sont moins élevées. Ça augmente quand même, mais moins que le beurre. Fait que ça fait partie des hypothèses. Après ça, il y a le type de gras. Les gras, il y a quand même beaucoup de données qui montrent que il y aurait des acides gras spécifiques au lait qui pourraient avoir des effets cardiométaboliques particuliers qui seraient plus protecteurs que néfastes. Puis après ça, ben, il y a tout l'aspect des nutriments qui viennent avec qui peuvent avoir aussi une influence. Mais ce qu'on observe, tu sais, d'un point de vue épidémiologique, quand les associations sont favorables, en fait, quand on observe que la consommation produits laitiers est associé à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Actuellement, ça demeure dans un range très faible à modéré. Donc, oui, le risque est plus faible, mais on est dans un. C'est pas le remède miracle. T'sais, on parle de quelques pourcents de différence habituellement, puis quand on compare des consommations élevées à faibles. Donc, on a quand même un bon écart dans la consommation entre les personnes qu'on étudie. La différence, oui, elle est là. Oui, elle est favorable, mais plutôt modeste. Ça prend en
Donc,
considération, ça aussi, quand on rapporte des études, quand on commente, tu sais, oui, bon, ça associe un risque plus faible, mais à quel point, ben, c'est pas toujours des grandes différences.
Donc, selon toi, à la lumière de ces données-là, est-ce que la recommandation de consommer des produits laitiers faibles en gras devrait prendre le bord? Peut-être pas prendre le bord, c'est un peu fort comme terme, mais est-ce qu'on devrait peut-être plus la nuancer ou consommer, je sais pas, là, remplacer le beurre par huile végétale, mais des fromages ou des yogourts à pourcentage de gras plus élevé, ce serait correct?
C'est une bonne question. C'est vraiment. Puis on pourra en discuter longtemps. Moi, je pense qu'elle est encore correcte, la recommandation. Ma vision de ça, c'est beaucoup en santé publique, il y a le principe de ne pas faire de préjudice, là. Tu sais, on est mieux
Réduction des
d'être.
méfaits.
C'est ça, c'est ça. Et pour moi, la recommandation de consommer des produits laitiers faibles en gras, pas très particulièrement dérangeant. Tu sais, on est sûr
Non.
qu'on ne cause pas de problème en faisant ça.
Oui, c'est vrai.
Après ça, si on l'enlevait, là, peut-être que ça poserait bien des questions sur, bon, ben, ça veut dire quoi finalement, les gras saturés dans l'alimentation? C'est-tu néfaste ou c'est pas néfaste? Puis ça, je pense que ça, il y a plus trop de discussion à ce niveau-là, là. Quand on remplace les gras saturés par des gras mono, polyinsaturés, le risque de maladie cardio-métabolique va être plus faible. Trop de questionnements là-dessus. Après ça, il faut l'opérationnaliser en aliments, puis ramener ça en aliments, puis c'est ça le défi. Et je la trouve pas. La recommandation n'est pas parfaite, mais elle repose sur un principe qui fait du sens, puis qui est prudent pour moi. Donc, dans ce contexte-là, je la laisserai là.
OK. OK. Bon, mais c'est une bonne réponse bien, bien nuancée. Puis, je veux parler du cas des œufs aussi, parce que ça, je pense que j'ai le souvenir quand j'étais jeune de l'entendre, puis c'est encore une question qu'on va me poser 15-20 ans plus tard. Bon, ben là, c'est-tu correct si je mange plus qu'un œuf par jour? Les œufs, c'est. Je pense qu'on l'a souvent associé les œufs au risque de maladies cardiovasculaires. Puis, j'ai le souvenir d'une amie au primaire qui me disait « Ah, mon papa, il a un infarctus, puis là, c'est sa fête, donc il va se faire une omelette, il va se gâter. » Bref, il y a beaucoup de controverses autour de ça. Donc, à la lumière des données actuelles, qu'est-ce qui se dégage au niveau de la consommation d'œufs et le risque de maladies cardio-métaboliques?
Grosse question aussi qu'on pourrait discuter très longtemps. La controverse au niveau des œufs vient de leur contenu en cholestérol, qui a beaucoup été associé. Puis bon, on sait bien, le cholestérol qui circule dans le sang, le mauvais cholestérol, quand qui est trop présent, ben il cause des infarctus. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. À partir du moment que ça a été découvert, je ne sais pas exactement, ça fait combien de temps, ça fait plusieurs décennies, le cholestérol alimentaire a été ciblé. Ah, ben là, c'est le cholestérol dans les artères des bouches, donc on devrait consommer moins de cholestérol. Les œufs étant une source très importante de cholestérol, arrêtons de consommer des œufs. Ça fait du sens là, quand on regarde ça comme ça. Après ça, ben là, il y a eu plusieurs études qui montrent que finalement, le métabolisme du cholestérol, c'est assez bien régulé. Et puis, chez les personnes qui n'ont pas de problème génétique ou cardio-métabolique particulier, une journée qu'on va consommer plus de cholestérol par l'alimentation, notre foie va tout simplement prendre une petite pause cette journée-là, puis va prendre le cholestérol qui vient de l'alimentation, puis va le renvoyer en circulation pour le rôle physiologique que le cholestérol doit faire dans l'organisme. Et il va prendre une pause cette journée-là. Puis la journée qu'on va en consommer moins, le foie va travailler un peu plus, puis il va en envoyer un petit peu plus en circulation. Donc, c'est comme une balance comme ça.
Oui.
Ça a été assez bien démontré, c'est assez bien accepté aussi là, ce principe-là de régulation endogène. Après ça, il y a eu des études épidémiologiques sur le cholestérol. Première date, il me semble, sur les œufs, fin des années 90, il me semble. Puis là, ça allait un petit peu dans tous les sens. Encore là, il y a beaucoup une part de la modélisation statistique. Puis du patron alimentaire, surtout au niveau de la modélisation statistique, dans la prise en compte du patron alimentaire qui entoure la consommation d'œufs. Aux États-Unis, la consommation d'œufs, typiquement, c'est le matin, les œufs bacon ou le steak and egg. Un steak puis les œufs pour déjeuner. Ça part bien la journée. Donc, quand on fait une étude sur les œufs, l'épidémiologique doit contrôler pour ces aliments-là le bacon, viande transformée, riche en gras saturé, riche en sodium. Puis souvent, c'est ça, deux œufs, bacon, la tranche de pain blanc, pas beaucoup de fibres, beaucoup de céréaliers raffinés. Donc, si on ne prend pas en considération ça, il va y avoir beaucoup de confusion. Parce que ça, c'est des aliments qu'on sait qui sont bien documentés, qui augmentent le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires. Si on ne contrôle pas pour la consommation de ces aliments-là, on va apporter beaucoup de confusion parce que l'effet qu'on va mesurer, ce ne sera pas l'effet des œufs spécifiquement, ça va être l'effet du déjeuner.
Oui, typique. Au complet.
C'est ça. Donc, c'est ce qui a causé beaucoup de confusion. En 2020, nous, on a fait une analyse, là, on est parti des cohortes de Harvard, on avait 200 000 personnes, on a fait des analyses qui montrent que, au final, 200 000 personnes suivies pendant 30 ans et plus, la consommation de jusqu'à un œuf par jour, il n'y avait pas d'évidence d'association avec le risque de maladie cardiovasculaire. Quelqu'un qui en mange un par jour, quelqu'un qui en mange zéro par jour, le risque de maladie cardiovasculaire était équivalent. Dans ces analyses-là, nous, on a ajusté pour consommation de pain blanc, de bacon, de viande rouge, aussi de patates spécifiquement, tu sais, patates à déjeuner, de jus de fruits, de boissons sucrées, tout ce qui vient à peu près avec le déjeuner typique, le déjeuner typique nord-américain. On a aussi ajouté pour le poids corporel via l'IMC. Donc, aucune évidence d'association. Puis dans la même période, à peu près, il y a, ben c'était fin 2019, il y a un groupe, c'était à Chicago, une étude dans le JAMA qui montrait que c'était associé à un risque plus élevé. Donc là, nous, on arrivait, la nôtre a été un peu motivée par celle-là. Puis en fait, nous, donc, ça avait fait beaucoup de bruit, leur publication. Puis nous, au-delà de l'analyse dans les trois cohortes où on avait beaucoup de tu sais, toutes les données nutritionnelles pour faire les bons ajustements, on a aussi fait une méta-analyse en plus. Donc, on est allé chercher l'étude qui avait été publiée quelques mois avant. On l'a intégrée dans nos analyses. On a intégré toutes les autres études, les autres cohortes qui ont été publiées sur les EM cardiovasculaires. Et même conclusion, pas d'évidence d'association avec le risque de maladie cardiovasculaire. Puis en fait, c'est pour ça que dans une méta-analyse, on met toutes les études ensemble, puis là, on fait une statistique là-dessus, l'effet combiné qui va être pondéré selon le poids de chacune des études et compagnie. Donc, c'est comme une méthode statistique là, qui permet vraiment d'avoir un effet global. Et dans cette méta-analyse-là, quand on fait des méta-analyses, il y a une statistique qui s'appelle l'hétérogénéité, qui est le pourcentage de concordance entre les résultats des différentes études. S'il y a une étude qui montre que telle exposition est associée à une diminution de 50% du risque de telle maladie, et que l'autre étude qu'on intègre dans la méta-analyse montre que c'est associé à une augmentation de 50 à 200% du risque, les deux études vont dans des directions totalement opposé. Ça va causer beaucoup d'hétérogénéité. Puis la statistique d'hétérogénéité va le refléter. Puis après ça, mais quand il y a beaucoup d'hétérogénéité, on pourrait dire que la qualité de la méta-évidence qui est générée, de la méta-donnée qui est générée, ben, elle est comme un petit drapeau rouge. T'sais, globalement, il n'y a peut-être pas d'effet, mais il y a beaucoup
Ça aide.
d'hétérogénéité. Donc, il y a quelque chose qui se passe qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui cause cette hétérogénéité-là. Dans notre étude sur la maladie cardiovasculaire, il n'y avait pratiquement pas d'hétérogénéité. Donc, globalement, là, toutes les études montrent que ne rapportent dans l'ensemble aucune évidence d'association. Donc, c'est ça qu'on a observé. Puis on s'est basé beaucoup là, sur le. Nous, on a travaillé dans une optique de 0 à 1 œuf par jour, jusqu'à 1 œuf. Ou un œuf et plus, là, mais on s'est arrêté là. Puis la raison pour ça, c'est que quand on regarde dans les grandes cohortes américaines dans lesquelles on travaillait, consommation moyenne était à peu près de 0,3 œufs par jour. Fait que ça revient à 1 à 2 par semaine. Fait que le questionnement après ça, on l'entend beaucoup, les personnes, est-ce que je peux manger un œuf par jour? Ben, les personnes qui mangent un œuf par jour, c'est une habitude alimentaire qui est marginale. Donc, la question de l'œuf par jour, d'un point de vue de santé publique, n'est pas vraiment importante parce que c'est assez marginal ce comportement-là. Je me souviens plus de la statistique, mais il me semble là, c'était. Il faudrait que j'aille revoir dans le papier, mais il me semble que c'était 3% des participants qui mangeaient un œuf ou plus d'un œuf dans les cohortes. C'est très peu, là.
Oh, c'est intéressant ça, ouais. Ouais, puis pourtant, on a l'impression que c'est peut-être plus répandu
C'est
comme
ça.
habitude, que tout le monde déjeune avec ses 2 œufs par jour le matin, mais selon les données, ce serait 3% des gens dans ces cohortes-là qui consomment un œuf par jour.
C'est ça, c'est ça. Puis ce qu'on observe aussi, c'est que depuis les années 90, mais la consommation d'œufs a diminué aussi à cause de tout le bruit sur ces aliments-là. Fait qu'au final, tu sais, quand on regarde ces données-là, les œufs, c'est quoi actuellement les œufs? Ben, c'est une source de protéines. C'est pas cher, surtout en période inflationniste comme on vit
En ce
là.
moment.
Fait que c'est une source intéressante de protéines intégrées dans l'alimentation. De
Puis ça met
façon.
l'hyposoluble aussi.
Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des vitamines. Voyons. Puis comme tous les aliments, ben c'est d'y aller avec modération, là. Puis après ça, ben il y a qu'est-ce que ça remplace les œufs. Ça, dans les analyses qu'on a faites, on a aussi fait des analyses de substitution. On a montré, par exemple, on a comparé qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va remplacer un œuf par exemple, une toast de grain entier ou, par exemple, une tranche de bacon. On a fait ça pour un paquet d'autres aliments. On observait
OK.
notamment que remplacer un œuf par une toast de grain entier, ben, le risque était de maladie cardiovasculaire était plus faible. Donc, c'est peut-être mieux de, si on est à trois œufs le matin, deux ou deux œufs, ben, peut-être diminuer à un œuf, puis ajouter une toast de grain entier. Ce qui fait
Ouais.
totalement du sens de par les effets qu'on connaît sur les grains entiers. À
Tout à fait.
l'inverse, s'il y a beaucoup de bacon dans l'assiette, ben, peut-être enlever une tranche de bacon, puis rajouter un œuf, ça peut être bien. Tu sais, c'est ça, là. Il faut positionner toujours quand on mange quand on parle de la question de l'œuf par jour, ben, ça dépend, il prend la
À quel
place
point?
de quoi l'œuf dans
Ouais.
l'alimentation. Est-ce qu'un œuf dans une salade style salade niçoise, hein, je veux dire, c'est pas la même affaire qu'un œuf dans un déjeuner américain avec deux toasts, pain blanc, bacon, des patates rissolées et compagnie, là. C'est pas du tout le même repas, puis le même contexte, la même habitude. Donc, il y a ça qui joue beaucoup.
Ouais, donc de ce que je retiens, à un œuf par jour, il n'y a pas d'augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Quand on regarde ça, c'est important de voir l'œuf, ben qu'est-ce qui l'accompagne dans l'assiette? Est-ce que c'est des pommes de terre cuites au four avec un petit sauté de légumes, une toast grain entier, peu importe, ou bien du bacon bien luisant d'huile? Puis c'est ça, puis de voir après, bon, ben, justement, qu'est-ce qui vient remplacer dans l'alimentation. Donc, il y a ces aspects-là qui viennent nuancer l'effet de l'œuf sur la santé.
Exactement. Tu sais, quand on regarde l'assiette du guide alimentaire canadien, il y en a un œuf dessus, là.
Ben oui.
Mais on voit aussi qu'il y a plein de céréales entières, il y a des fruits, il y a des légumes. Ça revient essentiellement à une source de protéines dans un contexte comme ça, là. Ça vient pas
Tout
un
à
aliment
fait.
qui prend toute la place ou qui amène une proportion trop importante de gras saturé, de cholestérol dans l'alimentation parce qu'il remplace tout le reste, là. Tu sais, c'est ça, là. Puis ça, c'est bon pour tous les aliments qui pourraient contenir des nutriments qui sont peut-être pas totalement favorables pour la santé, là. Tu sais, c'est correct de manger des différents aliments qui ont différents effets sur la santé, mais ça dépend toujours dans quel contexte, puis à quelle fréquence, puis à quelle quantité, compagnie.
Oui, tout à fait. Puis, je sais que j'ai déjà entendu bon la recommandation de jusqu'à un œuf par jour, c'est correct, ou moins de 7 par semaine. Selon toi, est-ce que c'est une recommandation qui est cohérente aussi? Parce que disons qu'une personne va manger, je ne sais pas, là, 3 jours dans sa semaine, elle va déjeuner avec 2 œufs, bon, ben, être à 6 dans sa semaine. Est-ce que c'est justement une recommandation qui est cohérente également?
C'est-tu cohérent? Oui, je sais pas, je peux pas avoir une image, je peux pas dire. Là, moi, je suis dans. J'ai beaucoup une
À jour.
vision de. J'ai surtout une vision, on pourrait dire, épidémiologique, là. Fait que
Ouais.
les cas de beaucoup d'œufs d'un seul coup, tu sais, c'est. Je pense pas que c'est des comportements très répandus. C'est-tu bon, c'est-tu mauvais? Je le sais pas. Ça dépend vraiment aussi de c'est quoi la place, c'est quoi le reste de l'alimentation, c'est quoi la place des œufs overall. C'est
Ouais.
ça.
Non, tout à fait. Puis je pense que des fois, les gens peuvent être très stickés sur les chiffres, vraiment. Bon, quantité d'œufs que je dépasse, blablabla. Mais comme on discute depuis tantôt, il faut vraiment pour prendre le contexte dans son ensemble de qu'est-ce qui vient avec l'œuf et tout ça. Donc, mais c'est quand même intéressant. Puis tu l'as mentionné à quelques reprises, qu'on a l'impression parfois d'un œil du public que les données vont dans tous les sens pour ça. Mais qu'en réalité, quand on regarde bien les études qui ont été bien faites, ben c'est les mêmes résultats qui sont observés, puis jusqu'à un œuf par jour, pas de problème. C'est ça.
Exact.
Mm-hmm. Mais c'est super intéressant. Puis j'ai vu aussi récemment, je crois en février, tu as publié un article qui regardait l'effet de la consommation d'aliments ultra transformés sur le risque de diabète de type 2, si je ne me trompe pas. Puis on peut en parler un peu parce que je sais que récemment, Radio-Canada avait sorti un article portant sur les aliments ultra transformés. Puis selon les données de 2015 sur l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes, c'est quelque chose comme 45,7% de l'apport énergétique des Canadiens et Canadiennes qui provient d'aliments ultra transformés. Donc, c'est quelque chose d'assez majeur auquel c'est important de s'y intéresser. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour cette étude-ci?
On a utilisé le même processus que pour notre étude sur les œufs. Donc, on a fait d'abord une analyse dans les cohortes américaines qu'on a par la suite combinée dans une méta-analyse aux autres études sur la consommation d'aliments ultra transformés et le risque de diabète. Puis on a utilisé cette approche-là de méta-analyse parce que, les données provenant de l'Amérique du Nord, c'est les cohortes américaines, mais les États-Unis aussi, bien, il y a sur cette relation-là, il n'y en avait pas encore, de façon prospective. Donc, c'est ma première analyse dans ce sens-là. Les autres provenaient les 6 autres études sur le sujet, provenaient essentiellement de l'Europe. Et donc, on a voulu amener une perspective un petit peu plus globale en combinant avec la méta-analyse, puis aussi en faisant il y avait l'optique d'idée d'avoir une perspective globale, puis aussi considérant que le niveau de consommation d'aliments pas transformés était un peu différent, puis le type d'aliments un peu différent entre les Américains et les Européens. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu les combiner pour voir si, overall, la relation était similaire. Puis dans ce cas-là aussi, d'abord, la consommation d'aliments ultra transformés dans les populations américaines. Nous, pour identifier les aliments ultra transformés, on a étudié la classification NOVA, classification à 4 niveaux. Le niveau à 4 niveaux de transformation. Puis on a pris les aliments qui étaient de catégorie 4, qui sont les aliments ultra transformés. Donc, c'est des aliments qui vont contenir beaucoup de produits d'ingrédients soit non naturels ou ça va être des aliments essentiellement faits à partir d'ingrédients, donc très peu d'aliments naturels entiers. Ils vont avoir des additifs. On pourrait les résumer là, pas mal à tout ce qui est emballé puis qui est prêt à manger ou prêt à réchauffer. En gros, là, c'est à peu près ça, des aliments ultra transformés.
Oui, puis une nuance aussi, parce que je sais que des fois, les gens peuvent poser la question, bon, ben un yogourt ou un pain va avoir subi une certaine transformation, mais ça, dans la classification de NOVA, il me semble que c'est le niveau 2 ou 3, le premier étant vraiment aucunement transformé. Donc, on pourrait penser une pomme, par exemple, niveau 2, minimalement transformé. Le troisième, ça, je pense que ça correspond.
Ça va être ça, les yogourts, les pains, dépendamment du type d'ingrédients qu'il y a dedans. Ils vont être soit transformés, catégorie 3, là, ou ultra transformés, catégorie 4. Donc, nous, c'est un travail qu'on avait fait préalablement là, de classifier tous les aliments qui sont questionnés dans le questionnaire alimentaire de ces cohortes-là. Puis après ça, en ayant fait cette classification-là, maintenant, ça nous fait une variable nutritionnelle qu'on peut exploiter. Et donc, on a procédé là, avec l'analyse sur le diabète. Puis tu sais, c'est essentiellement une confirmation de ce qu'on sait sur ces aliments-là quand on les regarde individuellement. Là. Moi, je vois beaucoup... quand on classifier ou catégoriser là, on pourrait dire la qualité de l'alimentation. Là, pour moi, je vois un certain. Pour avoir un axe végétal jusqu'à animal, ça s'aligne beaucoup avec ce qu'on voit dans le guide alimentaire, puis aussi un axe qui va être transversal à ça. Là. Dans mes cours, je fais un schéma, un axe des X puis un axe Y, là, puis en Y, ça va être le degré de transformation. Puis habituellement, ce qu'on observe, puis c'est assez. Les données sont assez robustes à ce niveau-là. C'est tout ce qui est, par exemple, végétal et minimalement transformé. Il va être favorable pour la santé. Comparativement à l'autre extrême, ça va être ce qui est animal ultra transformé. Là, habituellement, c'est ce qui va être associé avec le risque, l'augmentation du risque de plusieurs maladies cardio-métaboliques chroniques.
Puis tu parles d'alimentation végétale, puis ça me fait penser à une publication puis je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as fait en collaboration avec une autre équipe, mais qui avait regardé l'indice de qualité d'une alimentation végétale, donc une alimentation qui est plus saine, moins transformée, puis une qui l'est un peu plus. Puis je trouve ça intéressant parce que, disons qu'on pense à une alimentation végétale il y a 10-15 ans, quand il n'existait pas la panoplie d'aliments transformés, des fausses viandes, etc., sur le marché, bien, c'est ça, c'était beaucoup de cuisiner des aliments entiers, tofu, tempeh, légumineuses, alors que là, aujourd'hui, l'alimentation végétale porte encore cette espèce d'aura santé. Par contre, on peut être 100% végétalien puis pas cuisiner une seule fois parce qu'il existe maintenant une panoplie de produits sur le marché pour ça. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu de cette étude-ci?
Oui, bien dans cette étude-là, encore dans les mêmes cohortes, on a utilisé l'indice deux indices d'adhésion à une alimentation pro-végétarienne. Il y a le Healthful et le Unhealthful Plant-Based Diet Index, donc l'index santé et non santé, l'index d'alimentation pro-végétarienne santé et l'index d'alimentation pro-végétarienne non santé, qui ont été développés sur la prémisse où quelqu'un qui mange la consommation de par exemple de frites de restaurants et de boissons sucrées boissons gazeuses et compagnie, tout ça c'est des aliments végétaux qui sont pas nécessairement favorables pour la santé pour différentes raisons, et les boissons sucrées notamment parce que c'est des aliments ultra transformés. C'est essentiellement de l'eau avec du sucre raffiné. Donc, l'indice d'alimentation pro-végétarienne santé, il score l'alimentation, il donne des meilleures notes quand la consommation d'aliments végétaux minimalement transformés, riches en fibres, est vraiment prépondérante. Puis quand que la consommation d'aliments végétaux ultra transformés est faible, tout comme la consommation d'aliments animaux. Puis ce score-là, le Healthful Plant-Based Diet Index a été associé à un risque plus faible de diabète, maladie cardiovasculaire, cancer, mortalité. Puis dans notre analyse, nous, on a évalué les changements, en fait, parce qu'on sait la technique de base en épidémiologie nutritionnelle, puis c'est beaucoup relié à la façon dont les données nutritionnelles sont collectées, sont collectées de façon répétée ou pas. Mais quand c'est pas répété, pas collecté de façon répétée, donc par exemple, on a juste une mesure dans la population à l'étude, ben là, on peut juste comparer ceux qui adhèrent plus ou moins à tel ou qui consomment plus ou moins tel aliment à ceux qui en consomment moins. Quand on a des données répétées, on peut évaluer qu'est-ce qui se passe quand que des gens changent leur alimentation dans le temps, comment que ça influence leur santé. Donc, ça, c'est très important comme donnée parce que ça vient vraiment appuyer là, toutes les recommandations nutritionnelles. Parce que oui, c'est une chose de comparer les gens entre eux puis voir comment leur alimentation, de façon individuelle, influence leur santé relativement à d'autres personnes à côté. Mais les facteurs confondants dans ça sont très importants. Juste cette socio-économie va avoir un important effet confondant là-dedans qui est possible à contrôler statistiquement, mais c'est toujours un défi, puis on n'est jamais certain s'il est 100% contrôlé ou pas. Alors que quand on évalue les changements dans l'alimentation d'une même personne, ben là, on est capable d'évaluer cette personne-là, ben quand elle a amélioré son alimentation, son risque a diminué comparativement par exemple à la personne qui a pas changé son alimentation ou qui a détérioré la qualité de son alimentation. Donc ça amène vraiment un aspect une autre lunette qui est très complémentaire. Puis donc, nous, on a évalué comment les changements, comment une adhésion plus importante à un patron alimentaire qui reflète les recommandations du guide alimentaire canadien, là, beaucoup d'aliments végétaux minimalement transformés, influence sur le risque de diabète. Et on a observé que les gens qui augmentaient leur adhésion à ce patron-là avaient un risque plus faible de développer le diabète. Ceux qui diminuaient leur adhésion avaient un risque plus élevé de diabète. Ça vient vraiment appuyer ces données-là. Puis c'est très complémentaire à notre analyse sur les aliments ultra transformés parce que, encore là, c'est le même principe. C'est les mêmes concepts, mais avec des lunettes différentes, là, puis complémentaires. Puis quand on regarde, tu mentionnais, là, la disponibilité grandissante des aliments alternatifs végétales, ben c'est sûr que c'est intéressant, mais il faut se poser la question en termes de qualité nutritionnelle, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont considérés comme ultra transformés? Est-ce qu'il y a des additifs dedans, des choses comme ça? Donc, c'est certainement un pas en avant, Est-ce que c'est la finalité à viser? Je ne sais pas. C'est une bonne question.
Ouais, des fois, de ma lunette plus nutritionniste, mettons, d'un point de vue clinique, je me dis si ça peut servir ça peut être transitoire, aider quelqu'un à aller vers une alimentation végétale, là, pendant que tu te familiarises avec cuisiner le tofu, le tempeh, puis que ça permet de faire cette transition-là, tant mieux, puis qu'après, je veux dire, ça peut en faire partie comme n'importe quel aliment, mais que si l'alimentation végétale est exclusivement composé de ces aliments-là, déjà tout préparé, tout transformé, bon, bien, je crois, un peu perdre les bénéfices d'une
Exact.
alimentation végétale.
Oui, c'est ce que je pense aussi, là. C'est des aliments justement qui peuvent favoriser une transition, comme peuvent être les boissons sucrées artificiellement, là, pour quand la consommation de boissons sucrées est très importante, puis qu'on veut transitionner vers consommation plus faible de ces boissons-là, ben déjà de changer la boisson sucrée par une boisson qui va être. Il faut qu'on ait un édulcorant, ça peut déjà aider tout simplement pour la consommation de sucre ajouté. Mais tu sais, c'est un pas dans une démarche.
Tout à fait, tout à fait. Puis, je veux garder du temps pour parler de tes travaux, bon, qui regardent plus l'effet de l'alimentation sur les différents médicaments pour les lipides. J'ai mon dada pour le métabolisme des lipides aussi, là, mais pour terminer cette portion de la discussion plus sur l'épidémiologie nutritionnelle, on m'a déjà, bon, tu as dû le vivre comme nutritionniste aussi, là, se faire challenger dans des soupers de famille sur les recommandations et toutes sortes de croyances. Puis on m'a déjà dit, ah mais Myriam, puisque les recommandations nutritionnelles en nutrition sont principalement basées sur des études observationnelles qui sont dites normalement de moins bonne qualité ou qui ont une peut-être moins grande rigueur, mais bon, c'est ça, qui ont plus de limites, ben, toutes les recommandations en nutrition sont donc sont peut-être pas nécessairement bonnes parce que ça provient surtout d'études épidémiologiques. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
D'abord, je constate qu'il y a des très bonnes questions posées dans tes soupers de famille. Qu'est-ce que je réponds? Ben, je réponds que c'est faux, tout simplement faux. D'abord, oui, beaucoup d'épidémiologie, c'est une science qui repose beaucoup sur l'épidémiologie. Mais il y a quelques exceptions qui démontrent, qui viennent confirmer. Toutes les données épidémiologiques. Si on pense à l'étude Prédimed, donc un grand essai contrôlé en Espagne début des années 2000, trois groupes de personnes à risque de maladies cardiovasculaires, deux groupes où on met de l'avant la diète méditerranéenne, un avec via la consommation d'huile d'olive extra vierge, l'autre via la consommation de noix sur une base quotidienne pendant plusieurs années, puis l'autre groupe était diète contrôle faible en gras. Et les deux groupes de diète méditerranéenne, le risque de maladie cardiovasculaire, l'incidence de maladie cardiovasculaire était 30% plus faible après 5 ans. Le trial devait durer 7 ans, puis ils l'ont arrêté après 5 parce que l'effet était déjà démontré sans équivoque. Donc ça c'est le type d'étude, le gold standard, puis ça l'a démontré, puis ça vient. Quand on regarde après ça, juste l'amplitude de différence dans le risque, quand on compare ce qui est observé dans les études épidémiologiques observationnelles, c'est la même chose qui est mesurée. Donc ça vient confirmer. Puis là, récemment, il y a eu l'étude CardioPrev qui a fait la même chose essentiellement un design très similaire, mais chez des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Donc est-ce que l'alimentation peut prévenir la survenue d'une deuxième infarctus? Même conclusion. Donc ça, c'est des études qui viennent grandement appuyer. Puis après ça, ben ça c'est quand on compare le gold standard là, des grands trials avec dont l'issue principale est le développement d'une maladie. Après ça, ben quand on compare les conclusions des études épidémiologiques aux études de plus courte durée, mais avec des devis où l'alimentation est 100% contrôlée sur, par exemple, les facteurs de risque. Ben, on voit bien que consommer une alimentation méditerranéenne ou riche en plantes minimalement transformées, comme le guide le recommande, ben, les études contrôlées sur ce sujet-là montrent une diminution des facteurs de risque, des lipides, amélioration du profil lipidique, amélioration de la glycémie, amélioration de la pression artérielle, la grande étude DASH. Fait, et Il faut les regarder dans l'ensemble, les données, là, puis les différents types d'études contribuent à des morceaux du grand casse-tête qui sont différents, puis qu'au final, tout ça est très concordant. Puis l'autre aspect, c'est que oui, c'est observationnel, mais on n'a pas le choix d'une certaine façon pour avoir la meilleure représentativité.
Tout à fait.
Puis la meilleure analyse des dynamiques à ce niveau-là. Puis tu sais, il faut pas non plus donc ça prend mais ça prend des analyses fines. C'est pas nécessairement si on repose sur l'épistémologie, on n'est pas nécessairement moins sévère dans nos critères d'application d'évaluation de la qualité des évidences. C'est juste qu'on applique des critères qui vont être spécifiques à la science qui est la nutrition. Ces arguments-là, là, qu'il n'y a pas de trial, donc ça vaut rien, je trouve que ça amène des dérives qui peuvent être très faciles parce que la pollution, les changements climatiques, les
Il n'y a
ceintures
pas des
dans
équipements.
les autos, on fera pas d'études là-dessus, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut le tabagisme, je veux dire, on est passé là, cette nécessité-là, là. On peut pas en faire pour des raisons évidentes, mais il faut pas s'arrêter là.
Non, tout à fait. Puis des fois, je donne l'image, l'analogie de. C'est comme si bon, on a une question en recherche, fait que là, c'est un objet qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne connaît pas la forme. Chaque étude va être comme une lampe de poche qui va venir apporter un certain éclairage. Puis pour bien savoir ce qu'il y en est, bien, il faut différentes lampes de poche à différents angles, à différentes intensités. Puis l'aspect des populationnel est très important parce qu'on peut avoir une étude hyper rigoureuse contrôlée sur une centaine de personnes, mais c'est important de voir après, bien, sur des populations parce qu'ultimement, c'est des recommandations pour la population dans son ensemble qu'on fait. Donc, il faut qu'on soit capable d'aller capturer cette diversité-là, puis quel est vraiment le portrait de la situation dans une population donnée.
Tout à fait.
C'est une très bonne réponse que je garde en tête pour des prochains soupers de famille ou débats avec des amis. Maintenant, si on saute à ce que vous faites, ce que tu fais, pardon, au niveau bon, des lipides, des différents médicaments qui existent sur le sujet, j'ai vu que tu as beaucoup de publications qui touchent les gens qui vivent avec l'hypercholestérolémie familiale, qui est une maladie génétique où les récepteurs pour le mauvais cholestérol font défaut. Donc, puis j'ai vu que tu as publié quelque chose qui regardait bon, l'effet de l'alimentation sur la modulation, je crois, du cholestérol LDL, fait que le même mauvais cholestérol, chez ces gens-là. Donc, veux-tu parler un peu des travaux que tu fais autour de ça?
Oui, tout à fait. Chez les personnes avec hypercholestérolémie familiale, bon, ben c'est ça. Ces personnes-là ont des conditions génétiques qui fait qu'ils peuvent pas éliminer le cholestérol de leur circulation. Et donc, c'est cette condition-là qui a amené toute la découverte des médicaments qui baissent le cholestérol, principalement. Puis on a des molécules actuellement très puissantes, là, très efficaces. Ils viennent vraiment, on pourrait dire, remplacer le récepteur ou en fait, les mécanismes, ils viennent pas remplacer le récepteur, là, mais c'est des effets qui font comme si ces personnes-là, sur le bilan lipidique, c'est comme s'il y en avait, puis il n'y avait pas cette condition-là. Chez ces personnes-là, il y a eu plusieurs études sur la nutrition et ça n'a jamais été trop concluant, les résultats de ces études-là. Puis là, ça amène beaucoup de confusion chez les personnes avec hypercholestérolémie familiale, chez les cliniciens, sur le rôle de l'alimentation, l'importance de l'alimentation dans la prévention des maladies cardiovasculaires chez ces personnes-là. Du genre, je peux manger n'importe quoi parce que mes pilules vont faire la job. Ou peu importe ce que je mange, ça sera jamais assez, fait que ça sert à rien que je fasse des changements à ce niveau-là. Puis quand on regarde dans les lignes directrices, par exemple canadiennes, il y a une phrase qui mentionne qu'il y a tout simplement pas de données concluantes sur l'alimentation. Fait que moi je suis pas un clinicien, mais si je me mets dans la peau d'un clinicien qui a pas beaucoup de temps à discuter avec ses patients parce que de par la pression du système, on va parler de médicaments plutôt que parler de nutrition, là. Puis c'est tout à fait correct. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? L'étude auquel tu fais référence, on a fait une revue systématique de toutes les études nutritionnelles sur le cholestérol chez les gens avec hypercholestérolémie familiale. Ça remontait les premières, me semble, au début des années 90. On a regardé qu'est-ce qu'ils ont testé, qu'est-ce qu'ils ont conclu, qu'est-ce qu'ils ont observé comme effet. Bon, c'était surtout des études qui ont testé des aliments ou des suppléments nutritionnels, hein, d'oméga-3, par exemple, sur le cholestérol. Très peu d'études sur des patrons alimentaires, il me semble que c'était une ou deux. Donc, quand on regarde ça comme ça dans l'ensemble, ben effectivement, on dit, ouais, on sait pas trop, là, c'est quoi la conclusion à tirer de ça, parce que c'est toutes des études différentes qui ont testé des choses qui sont plus ou moins actuelles aujourd'hui, comme approche nutritionnelle qu'on va mettre de l'avant. Et donc, la deuxième étape qu'on a faite dans ce travail-là, c'est de dire, bon, ben, telle étude, par exemple, a conclu à qu'il n'y a pas d'effet. Bon. Est-ce que cette étude-là était bien designée? Puis est-ce qu'il y avait des biais potentiels dans la façon qu'elle a été faite? Donc, on a séparé, on a évalué le risque de biais dans chacune des études. Puis après ça, on les a séparés selon si le risque de biais était faible ou élevé. Donc, un risque de biais faible, c'est une étude qui est bien montée, où les différents éléments contrôlés pour avoir la conclusion visée par l'objectif de l'étude, ben, elle était contrôlée. Les études à plus haut risque de biais, ben, c'est sûr on a identifié des problématiques, là. Puis ça c'était selon une approche, là, qui est connue, qui est approuvée, dans la littérature. Et quand on a regardé, puis quand on les séparait, faible risque à risque élevé de biais, ben, les études à faible risque de biais avaient, une proportion beaucoup plus grande à observer une diminution du cholestérol causée par l'alimentation dans l'hypercholestérolémie familiale. Donc, il y avait plus d'études qui avaient observé des diminutions parmi celles à faible risque comparativement à celles à haut risque de biais. Fait que après ça, ça veut dire, bon, ben, quand on regarde la littérature, c'est important d'évaluer la qualité des études pour se faire une tête.
Vraiment.
Parce que si on met de côté celles qui avaient un risque plus élevé de biais, puis on se concentre sur celle qui a un risque faible, ben, ça appuie l'importance d'une saine alimentation chez ces personnes-là. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a faite. Puis là, ben, on vient de terminer une première phase de recrutement. On a une cohorte de 250 environ personnes, là, avec hypercholestérolémie familiale qui sont venues ici à l'INAF compléter un paquet de questionnaires alimentaires, aussi des questionnaires sur leur perception de l'importance de l'alimentation comparativement aux médicaments dans la prévention des maladies cardiovasculaires, sur leur adhésion aux médicaments. Puis nous, à partir des données nutritionnelles, on va aussi évaluer leur adhésion aux recommandations nutritionnelles. Puis toutes ces personnes-là, on a collecté un bilan lipidique, donc on a mesuré leur cholestérol, puis on s'est tout fait un CT scan, où on a mesuré la calcification de leurs artères du cœur. Donc, on va commencer les analyses dans les prochains mois et années sur cette cohorte-là, mais pour vraiment amener, là, plus d'évidence sur la relation entre l'alimentation, la prise de médicaments, puis la prévention des maladies cardiovasculaires chez ces personnes-là. Puis en parallèle, ben, on a un trial en cours où là, on nourrit des personnes avec hypercholestérolémie familiale en deux phases. Une première phase qui est une alimentation qui reflète l'alimentation générale des Canadiens, Québécois. Donc, alimentation où il y a plus de place pour les aliments transformés, trop transformés. Puis notre autre traitement, qui est vraiment celle-là qu'on étudie, c'est une alimentation qui reflète les grands principes du guide alimentaire canadien. Donc, il y a beaucoup de place pour les végétaux, les grains entiers, les aliments minimalement transformés. Et puis, ben, à la fin de l'étude, on va pouvoir vraiment, là, évaluer la diminution du cholestérol causé par l'alimentation chez ces personnes-là. Donc, pour amener vraiment, essayer de dissiper toute la confusion, là, sur le rôle de l'alimentation chez cette personne-là, utiliser différentes approches, et puis, c'est ça. Ça, ben,
Tout à
on l'a pour quelques années encore.
Oui, oh non, mais c'est super intéressant, puis c'est encourageant de savoir aussi justement que vous avez démarré ces études-là. Puis quand tu dis les deux phases, est-ce que c'est un devis en chassé-croisé où les gens vont suivre l'alimentation pendant, disons, l'alimentation normale québécoise pendant un certain temps, une période de wash-out où est-ce qu'ils reviennent à leurs habitudes, puis après ils vont suivre l'alimentation qui s'aligne avec les recommandations du guide?
Tout à fait, c'est 2 fois 4 semaines dans un ordre aléatoire. Puis toute la nourriture est préparée ici à l'INAF. Là. Puis tu sais, la différence dans notre menu, par exemple, le vendredi soir, ben on a mis, me semble, c'est une pizza dans les deux menus. Mais dans un des menus, c'est une pizza qu'on achète à l'épicerie qui est congelée, puis on la portionne. Puis dans l'autre, ben c'est une pizza qu'on fait à maison, je pense sur un pita, des choses comme ça. Donc le menu est très apprécié de nos participants. On est bien contents de ça. Après ça, on va pouvoir voir l'effet là, quand que l'étude va être complétée. Mais justement, avec le devis en chassé-croisé, on va comparer chaque personne à elle-même. Donc, la réponse de chaque personne à la saine alimentation comparativement à d'autres alimentations, là, on peut dire sous-optimales. Donc, ça amène un devis qui est plus puissant là, pour vraiment démontrer l'effet hypocholestérolément de l'alimentation. On ne s'attend pas à ce que l'alimentation, évidemment, induise des diminutions aussi puissantes que la combinaison de statine, ezetimibe, inhibiteur de PCSK9, là, qui sont les 3 molécules utilisées là, beaucoup pour prendre en charge le cholestérol chez ces personnes-là. Mais on s'attend au moins à montrer que ça a un effet important. Donc, c'est important de quand même mettre des efforts et offrir du soutien à ces personnes-là pour une prise en charge nutritionnelle. Ne pas négliger juste parce que le cholestérol par le médicament est réduit. Là, parce que de toute façon, on peut réduire le cholestérol par la médication, mais les autres facteurs de risque cardio-métabolique, la pression artérielle, le risque de diabète, tout ça, si l'alimentation demeure sous-optimale, ces risques-là vont demeurer présents. Et donc, il ne faut pas... Puis ça, la médication pour le cholestérol ne viendra pas les contrôler ou les prévenir. Fait que ça va amener ce genre d'évidence-là aussi.
Ben oui, mais c'est pertinent pour avoir un outil de plus à son arsenal. Puis, je sais, pour les anti-PCSK9, il y en a sans doute, là, mais je sais qu'il y a parfois des patients qui vont être beaucoup moins tolérants aux statines ou ils vont avoir beaucoup d'effets secondaires ou ça fonctionne juste pas. Là. Donc, s'il y a un médicament qui fonctionne pas puis qu'on se retrouve avec peut-être juste 2 molécules, si on est capable d'avoir quelque chose d'autre qui peut venir aider ou du moins venir amenuiser d'autres facteurs de risque pour préserver une santé globale, c'est super pertinent à avoir.
Ah, tout à fait. Moi, je suis convaincu, puis j'espère pouvoir faire changer la ligne dans les guidelines dans les prochaines années qui mentionnent qu'il n'y a pas de données concluantes. Là, j'espère que pouvoir générer des données concluantes. C'est un peu ça mon but.
C'est une belle motivation à avoir. Puis là, j'imagine cette fois-ci, tu as délégué la tâche de c'est pas toi qui vas aller peser les pitas le vendredi soir.
Non, c'est pas moi. On a engagé quelqu'un.
On a des... Ouais. Ben oui, pour ça. C'est vraiment intéressant, mais j'ai hâte de voir. Je sais que ce genre d'études-là prend beaucoup de temps et tout, mais ça va être certainement des données très, très pertinentes pour la pratique clinique. Puis, il me semble que tu as mentionné au début aussi où, parce que là, on parlait de l'effet de l'alimentation sur la réduction du cholestérol de façon complémentaire aux médicaments. Puis, est-ce que j'ai bien compris où tu regardes aussi des fois l'effet de l'alimentation sur l'efficacité du médicament ou comment les deux...
Plutôt l'inverse. Les années, ce qu'on est en train de faire, on étudie comment les gens qui prennent des médicaments, comment la prise de médicaments peut influencer l'alimentation. C'est un peu dans les mêmes questionnements parce qu'on sait que les médicaments, ils sont efficaces. Ça c'est ça. Ça demeure des coûts pour la personne, pour le système. C'est tout un pan du système de santé. Nous, on regarde, en fait, avec l'optique ou dans la gestion des problèmes de cholestérol, des problèmes de pression artérielle, puis la gestion de la glycémie associée au diabète, Les recommandations, c'est tout pareil. C'est, hein, on met de l'avant les habitudes de vie, l'alimentation, puis après ça, on se tourne vers la médication de façon complémentaire, ou au moins, on utilise les deux de façon complémentaire. Donc, on observe si ça se fait dans la vraie vie. Donc, on a les données d'une cohorte, on utilise une cohorte québécoise, on a à peu près, dépendamment là, des études, on tourne autour de 1000 sujets. Et puis, tu sais, c'est par exemple l'étude sur la pression artérielle, c'est toutes des personnes qui ont de la pression, qui savent qu'ils font de la pression, il y en a qui prennent pas de médicaments, puis il y en a qui prennent jusqu'à 4 ou 5 médicaments pour la pression. Et donc là, on regarde, on compare la qualité nutritionnelle selon l'intensité de la médication. On observe soit que les personnes qui prennent beaucoup de médicaments, là, quand on regarde dans l'ensemble de ces cohortes-là, ben ils mangent soit ben la qualité nutritionnelle, on utilise des scores, soit similaire, soit inférieure. Fait que similaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ben déjà la moyenne, quand on regarde la moyenne des scores, ben c'est en bas de ce qu'on devrait. Tu sais, on est dans l'optique que c'est ça. On est dans l'optique que c'est une qualité sous-optimale. Puis après ça, ben quand que ça on observe que c'est plus faible chez ceux qui prennent des médicaments, ben là, ça se fait des questions. Bon, ben là, OK, quel genre d'accès, quel genre de prise en charge ces personnes-là ont accès, là? Puis pourquoi qu'on ajoute des médicaments? Donc, habituellement, on ajoute des médicaments parce que la pression va s'élever, va être mal contrôlée, mais bon, qu'est-ce qui cause ça, tu sais? Est-ce que c'est... ben, nous, on a des données qui suggèrent que peut-être c'est la détérioration de l'alimentation. Puis est-ce que c'est le médicament qui cause ça? Ça, c'est tout ça, parce qu'on veut rendre ça plus optimal pour les personnes, pour le système et compagnie. Donc, c'est ça, j'ai plein de questions par rapport à ces analyses-là encore, parce que sont toutes fraîches, c'est nos premières analyses sur cette thématique-là. Ça amène plein de questionnements que je trouve vraiment intéressants. Tu sais, on parle de l'accès là, aux soins de santé, là, la réforme du ministre de la Santé, tout ça, avoir plus d'accès aux professionnels qui sont pas des médecins, tout ça. Ça vient avec... Bref, c'est un peu tout ça, là.
Oui, non, puis il faut des études pour comprendre l'effet du médicament, tant d'un point de vue physiologique, mais psychosocial, ce que ça va avoir sur les comportements de consommation alimentaire. Puis
c'est ça.
On peut pas intervenir si on comprend pas quelle est la relation, comment un influence l'autre. Donc, c'est ça aussi des études très pertinentes que j'ai hâte de voir, que j'espère que vous allez publier dans les prochaines années.
On l'espère aussi.
Je vois le temps qui file. Donc, pour conclure tranquillement, bon, on a parlé de beaucoup de choses. On a beaucoup creusé, je trouve, des sujets intéressants en épidémiologie nutritionnelle, parlé d'utilisation des médicaments pour la diminution du cholestérol et tout. Comme chercheur et comme nutritionniste aussi, est-ce qu'il y aurait peut-être trois messages clés que vous aimeriez que les gens retiennent par rapport à ce qu'on a discuté? Que ce soit par rapport aux recommandations, l'interprétation des études épidémiologiques dans les médias, accès aux soins de santé, etc.
Je pense que ce que les personnes pourraient retenir, c'est que c'est important de bien manger. Il y a différentes façons de bien manger. Puis, mettons le troisième, ce serait se tourner vers des professionnels si les gens souhaitent modifier leur alimentation pour le mieux, c'est plus simple que ça peut paraître, à mon avis.
Bon, c'est trois très bons messages. Puis, je sais qu'il existe beaucoup de livres sur la nutrition un peu tout partout. Je grince toujours un peu des dents quand je vais dans les librairies, mais est-ce que certains ouvrages sur l'alimentation, sur la science que tu as particulièrement apprécié puis que tu souhaiterais recommander, disons que quelqu'un est intéressé puis ne peut pas nécessairement se lancer dans des grosses lectures complexes d'articles scientifiques, mais des ouvrages qui sont intéressants, accessibles sur le sujet?
Ah, c'est une bonne question. C'est pas vraiment le genre de livre que je lis, malheureusement. Pour quelqu'un qui a de l'intérêt, on pourrait dire plus scientifique, là, Il y a tout le dossier qui s'appelle Food for Thought, qui est publié dans le British Medical Journal. Ils font des mises à jour habituellement chaque année associées à ce dossier-là. Ça fait quelques années qu'ils font ça. C'est des grands experts à travers le monde qui publient sur les grandes questions, hein. C'est quoi l'importance des glucides dans l'alimentation? Il touche à tout plein. Ça va de vraiment des aliments, leur effet sur la santé jusqu'aux politiques et compagnie. C'est vraiment un dossier vraiment fascinant. Ça se lit très bien. Ça serait ça ma recommandation.
Bien, c'est une bonne recommandation. Moi-même, je ne la connaissais pas, là, donc je vais définitivement aller regarder ça. Donc, merci. Puis si les gens ont été très emballés par la discussion, sont curieux de suivre vos travaux, est-ce que vous avez un Twitter, une page web, peu importe, sur laquelle les mises à jour de vos travaux sont mises, de tes travaux? Mon Dieu, je te vois encore, même à la fin de la discussion.
Pas de problème. Oui, sur Twitter, c'est JP, souligné, Drouin, souligné C. Sinon, le site de l'INAF, du Centre Nutris ou de la Faculté de pharmacie, là, souvent les nouvelles reliées à nos travaux se trouvent là. Et donc, facilement rejoignable par courriel pour questions ou autres. Donc, voilà.
Excellent. Super. Bien, je mettrai le lien du dossier Food for Thought dans la description de l'épisode, puis le lien de ton Twitter également. Donc, mais je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de passer au podcast. C'était super intéressant. Puis tu as des travaux vraiment fascinants en cours de route. Puis je te souhaite le meilleur des succès pour le déroulement de ces études-là. Puis je l'ai dit, mais je le répète, j'ai bien hâte de lire tous ces résultats-là une fois que ça va être publié.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir.